Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer, nous allons aborder le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. Je vais vous faire la lecture ce soir. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance, donc l'alliance qui avait été passée avec Dieu et son peuple juif, la première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie, c'était une tente, la première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Donc c'était divisé en deux, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Cette arche de l'Alliance était un coffre. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de la manne, vous savez, de la nourriture que Dieu donnait chaque jour au peuple, à son peuple dans le désert. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, si vous connaissez l'histoire, et les tables de l'Alliance, donc les 10 commandements. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui recouvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Voilà ce que Paul dit. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, donc dans le lieu saint. Mais dans la seconde, donc dans le lieu très saint, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'était quelque chose qui était tenu caché, il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par an. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Et quand Jésus est arrivé, ça a été cette fameuse réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alors on va étudier ça correctement. Paul, donc, continue toujours, je répète pour ceux qui ne connaissent pas, moi je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cet épître, hein, mais ça, c'est, si vous n'y croyez pas, c'est pas trop grave. Paul continue toujours sur ce sujet de la sacrificature, et pour faire ressortir l'excellence des privilèges attachés au nouvel ordre des choses, il rappelle à ces juifs qui s'étaient convertis au christianisme, ce qui avait lieu sous l'ancien ordre. Donc, pour cela, il commence par raconter de nouveau ce qui se trouvait dans ce tabernacle. Il appelle le tabernacle sanctuaire terrestre, ou plus précisément, le mot, c'est plutôt le tabernacle mondain, ou le tabernacle de ce monde, par opposition au tabernacle qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de cette création. Hein, vous avez vu, on a lu ça dans le verset 11. La première alliance donc était en rapport avec ce sanctuaire et avait des ordonnances ordonnées par Dieu pour le service divin. Et tout cela devait disparaître un jour. Chose étrange, quand on lit ça, on s'aperçoit, ceux qui connaissent comment était le tabernacle, qui ont étudié ces choses, choses que j'ai étudiées il y a quelques années en arrière, j'en avais fait des études. Paul ne mentionne, omet de mentionner l'autel des parfums. Bon. Il parle de l'encensoir qui devait être rempli de feu, pris sur cet autel des parfums, hein. Et le souverain sacrificateur, donc, offrait l'encens sur l'autel, mais dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Paul parle donc très sommairement de ce qu'il y avait dans le tabernacle et de ce qui s'y passait. Si vous voulez savoir vraiment tout, il vous faut aller voir dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans le livre de Moïse. Parce que les Hébreux convertis au christianisme à qui il écrivait, ben, ils savaient toutes ces choses, ils connaissaient toutes ces choses. Elles sont pas secrètes, elles sont écrites dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc, le tabernacle était partagé en deux parties. Et Paul nous rappelle deux faits dont il tire des conséquences. Premièrement, le sacrificateur est... comment dire, et le souverain sacrificateur entrait constamment dans la première partie du tabernacle. C'était tous les jours. Ils entraient chaque jour là pour accomplir le service divin. Par exemple, celui d'offrir l'encens sur l'autel des parfums, voilà. D'avoir, faire attention aussi que les lampes du chandelier d'or soient toujours, l'huile suffisante pour que cela brûle constamment, et puis aussi pour placer chaque Shabbat, le pain de proposition sur la table. Tout cela, vous le trouvez dans Exode 30, versets 7 à 8. Vous irez lire ça et vous verrez tout ça. Et puis vous pourrez comparer Exode 30, 7 à 8 avec Luc 1, 9. Vous trouverez aussi dans 1 Chronique 6, 49, dans Exode 27, 21 et dans Lévitique 24, 1 à 9. Je ne vous lis pas tous ces versets parce qu'on va en lire tout à l'heure quelques-uns qui sont un peu longs aussi, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je fais comme Paul, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bon, en second lieu, le souverain sacrificateur seul et une fois par an, au jour de l'expiation, dont parle le Lévitique 16, 3 à 19, il entrait dans le lieu très saint en y apportant le sang des victimes offertes pour lui-même, selon Lévitique 16, 11, et pour les fautes ou péchés d'ignorance du peuple. Lévitique 16, 15 à 16. On dira quelque chose au sujet de ce que c'est que ce péché d'ignorance. Tout ça nous enseigne que l'accès auprès de Dieu, dans la première alliance, cet accès était fermé. Les pécheurs ne pouvaient pas entrer dans le vrai lieu saint, dans la demeure de Dieu. Donc dans la deuxième partie du tabernacle. La deuxième partie du tabernacle, c'était la figure de l'habitation de Dieu. Le chemin pour y entrer n'avait pas été manifesté. C'est Jésus le chemin. Aujourd'hui, Jésus est le chemin qui nous permet d'entrer en présence du Père. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il n'est pas en train de dire autre chose que ça, hein, qu'il est le chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, le lieu saint, c'est nous, sur terre. Parce que le Saint-Esprit vit en nous, il est en nous, nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire nous avons été mis à part, nous sommes saints. Hein, si vous lisez dans la Bible, les saints, c'est des hommes, des femmes, des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui sont purifiés de tous leurs péchés parce qu'ils ont la foi que le sacrifice de Jésus est suffisant pour eux pour être sauvés, pour être saints. Donc, le lieu saint, aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu. Et le lieu très saint, c'est là où nous avons accès en esprit et en vérité. Alors, nous sommes le tabernacle de Dieu sur terre. Il habite en nous par son esprit, ce qui fait que nous sommes mis à part par lui, choisis par lui, pour il veut habiter en nous, mais nous ne sommes pas encore, si vous voulez, nous sommes que l'ombre encore de ce que nous serons, parce que ce que nous serons n'a pas, ce que nous sommes réellement n'a pas encore été manifesté, nous sommes que l'ombre de la chose. Hein, il y a eu un premier tabernacle qui était une tente, ensuite il y a eu le temple à Jérusalem, mais maintenant c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas de temple fait de main d'homme, ce qu'on appelle les temples, les églises, tout ce que vous voulez, ce sont des lieux où on peut aller pour prier, pour méditer, pour écouter la prédication, c'est très bien, ce sont des endroits abrités où il fait chaud, l'hiver où il fait froid, frais un peu l'été, mais ce n'est pas des temples. Le temple, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous-mêmes. Mais alors, n'oubliez pas qu'il n'y a plus de séparation entre le lieu saint que vous êtes et le lieu très saint. Car le voile a été déchiré du haut en bas. Vous vous rappelez, quand Jésus est mort, le voile qui se trouvait dans le temple, qui séparait justement le lieu saint du lieu très saint, il était déchiré du haut en bas. C'est pas une main d'homme qui a déchiré ce voile, qui est très épais d'ailleurs, mais c'est Dieu lui-même. Matthieu chapitre 27 et verset 51. Vous irez regarder ça vous-même. Et dans Hébreux 10, 19, il est dit que nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Tous les jours, quand nous voulons. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant où c'était un jour par an, le grand sacrificateur qui rentrait là avec du sang. Et... Non, maintenant nous avons accès, une pleine liberté pour entrer en présence de Dieu. Jésus est entré une fois pour toutes en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et il n'y a que lui qui a cet ordre-là, qui a cette prêtrise-là. Il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, et personne ne peut entrer avec son propre sang, ou avec des offrandes, ou avec des bonnes œuvres, c'est faux tout ça. Il n'y a que lui. Maintenant, il y a une chose qui est absolument extraordinaire et que peu de gens disent, et moi je vais vous le dire, c'est que la loi de Moïse n'offrait de pardon que pour des péchés commis involontairement. On va lire ça dans Nombre 15, verset 22. Je vous fais la lecture. Lorsque vous pécherez involontairement, en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce qu'il vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse depuis le jour où il a donné ses commandements et plus tard au fil des générations, si on a péché involontairement, sans que l'assemblée ne s'en aperçoive, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne conformément à la règle établie. Ça c'est donc dans la Bible, hein, c'est dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est écrit. Elle offrira un bouc en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites et le pardon leur sera accordé. Donc ce fameux jour où il entre dans le lieu très saint. En effet, ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice passé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause de cette faute involontaire. Vous voyez combien de fois c'est marqué involontaire ? Le pardon leur sera, pardon sera accordé à toute l'assemblée des Israélites et à l'étranger en séjour parmi eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si une seule personne qui a péché involontairement, si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice d'expiation et le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, le pardon lui sera accordé. Que l'on soit israélite ou étranger, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Notez le combien de fois c'est écrit involontairement. Et si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel, c'est-à-dire s'il pêche volontairement. Il sera exclu du milieu de son peuple, il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, il sera exclu et il supportera les conséquences de sa faute. Vous voyez, pour les péchés commis volontairement, il n'y a pas de sacrifice qui pouvait l'expier. Le coupable, c'est terrible, il devait être mis à mort en fait, il devait être mis à mort. On va lire Nombre 15, toujours la suite, verset 32. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du Shabbat, le jour du repos. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'emmenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. Il ne savait pas encore, il n'y avait pas vraiment, ce n'était pas clair. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. » Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné. On va lire aussi Deutéronome, parce que voilà, c'est pas seulement un verset isolé. Deutéronome 17, 12 à 13. Deutéronome, qu'est-ce que j'ai dit? 17, 12 à 13. Donc, si par orgueil un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. On va lire aussi Hébreux 10, 28, si vous voulez, pendant qu'on est là avec cette chose terrible. Hébreux 10, 28, voilà ce qui est dit. « Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. » Sans pitié, mis à mort. Par contre, Jésus, lui, nous a obtenu un rachat éternel. Hébreux 9, 12, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alors, ce pardon est pour ceux qui, évidemment, reste respectueux de l'amour de Dieu et ne l'abandonne pas. On va reprendre Hébreux 10, mais cette fois, on va le prendre au verset 24. Et là, il parle à tout le monde, il nous parle à nous. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. « N'abandonnons pas notre communauté comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » On voit le jour s'approcher, les signes sont là, les catastrophes sont là, tout est là. On voit le jour s'approcher, c'est pas le moment de faire les marioles. « Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse et mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins, quelle peine plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons celui qui, en effet, a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Et il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Alors ça fait peur, ce verset, ça fait peur. Alors, certains se demandent, mais est-ce que je suis déchu de la grâce? Est-ce que, parce qu'il m'est arrivé de pécher volontairement? Alors, regardons qui sont ceux qui sont déchus de la grâce, d'après les textes sacrés. On vient de le lire, mais il faut le décortiquer, le texte, il faut y réfléchir, il faut y penser, il faut y méditer. Ceux qui sont déchus de la grâce sont ceux qui volontairement rejettent la vérité. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Alors, c'est Jésus la vérité. Celui qui rejette Jésus, celui qui rejette le sacrifice de Jésus, celui qui ne croit plus que Jésus est son sauveur, c'est celui-là qui pêche volontairement et qui est déchu de la grâce. C'est ça le péché contre l'esprit de la grâce. C'est ceux qui volontairement, après l'avoir connu, rejette donc la vérité. On trouve ça dans Hébreux 10, 26. Ce sont ceux qui deviennent des adversaires de Jésus après l'avoir connu. Verset 27. Ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui ne savent rien au sujet de Jésus, sauf que, voilà, il y a le petit Jésus qui est né dans la crèche, puis il est mort sur la croix, puis le petit Jésus, il était gentil, puis le petit Jésus, il a fait des miracles, et puis le petit Jésus, voilà, ben ceux-là, ils n'ont pas connu. C'est simplement, voilà, ils ont une culture, ils sont pas adversaires de Jésus, même s'ils font des bêtises, ils appartiennent pas à Dieu, ils ont une culture chrétienne. Mais ceux qui sont des adversaires de Jésus après l'avoir connu, verset 27, là c'est grave. Ceux qui auront jugé sans valeur le sang de l'Alliance. Grave là. Et ceux qui auront insulté l'Esprit de la Grâce. C'est-à-dire si tu insultes l'Esprit de la Grâce, tu insultes le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est rejeter l'esprit de la grâce, rejeter le cadeau de Dieu. Alors maintenant, tu me diras peut-être, « Ah, mais moi, j'ai fait ça une fois, je me suis détourné de Dieu, j'ai vécu comme j'ai voulu, alors maintenant je suis fichu. » Non, tu n'es pas fichu, parce que tu n'es pas encore mort. Tu peux encore demander pardon. Si tu as à cœur de demander pardon, c'est que le Saint-Esprit est en train de t'appeler, de te convaincre de péché, et tu peux encore. Mais si tu meurs dans cet état-là, si tu meurs dans cet état-là, dans cet état de rébellion, d'adversité, de haine contre Jésus ou d'indifférence totale après l'avoir connu, là, il n'y a rien pour toi. Pas de pardon, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice a déjà été fait. Tout autre péché peut être pardonné parce que Jésus plaide justement en faveur des siens qui pêchent. Et nous pêchons de toutes sortes de manières. Celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Hein? Nous péchons de toutes sortes de manières, nous sommes imparfaits, mais heureusement nous avons Jésus qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qui plaide avec son sang devant le Père afin que nous soyons pardonnés. Croyez cela, ayez foi en cela. Si vous n'avez plus foi en cela, si vous rejetez l'esprit de la grâce, ça c'est une autre chose. Mais si vous avez encore l'amour pour Dieu en disant « Mon Dieu, pardon, j'ai péché il est votre avocat, il va plaider pour vous. » Soyez donc sérieux, restez fidèles à l'esprit de la grâce et ça ira bien pour vous, même si vous n'êtes pas le plus grand, le plus fort et le meilleur des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus, je te prie pour que tu aides chacun et chacune à bien comprendre tout ce que j'ai enseigné là et qu'ils puissent se réjouir en toi et te louer de toutes les merveilles qu'il y a dans cette nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était terrible. Qui voudrait revenir dans cette ancienne alliance? Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné cette alliance, de l'avoir faite pour nous et de nous d'avoir pourvu pour notre salut. Que ton nom soit béni Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.